Alors, si vous voulez joindre à moi, on va demander la bénédiction du Seigneur pour l'étude des Écritures qu'on va faire ce matin. Alors, notre Dieu, nous venons devant toi, tu es tellement grand. Dans ta parole, tu nous dis, Seigneur, que tu es insondable. Alors, par définition, ça veut dire que peu importe le temps que nous passons à étudier qui tu es, tes attributs, jamais nous n'atteindrons le fond, ni sur cette terre, ni même dans l'éternité, tellement tu es grand. Alors, Seigneur, on a besoin que ton esprit nous conduise, nous ouvre vraiment l'intelligence à la compréhension de ta parole. Et non seulement à la compréhension, Seigneur, mais à l'obéissance des principes qui nous sont enseignés pour nous laisser transformer, pour qu'on ressemble davantage à la glorieuse personne de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, on sait qu'il n'y a que ton esprit qui est capable de faire de telles choses. On te prie de nous bénir abondamment et de nous faire grandir, qu'on soit meilleur après avoir entendu le sermon qu'on l'était avant l'audition. Alors, on te demande ces bénédictions en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, on va continuer notre étude de Genèse. On va aller dans Genèse chapitre 6. Les versets 11 à 22. Genèse chapitre 6, versets 11 à 22. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alors, j'ai divisé le texte en trois parties. C'est la façon traditionnelle de diviser un texte en trois parties. C'est un aide-mémoire, ça aide un petit peu à retenir un petit peu les principales idées du texte. Alors, on va regarder aujourd'hui la destruction exposée dans les versets 11 à 13, la destruction où la famille de Noé va échapper, la destruction échappée, versets 14 à 21, et la destruction estimée, le verset 22, où, après avoir reçu le commandement de Dieu, et l'avertissement de Dieu, et il a obéi. On va voir tout ce que ça implique. C'est extraordinaire. C'est un passage des Écritures qui est très riche et très bénissant. Alors, on le sait, les Écritures nous l'apprennent. Dieu est infiniment patient et on est très chanceux qu'il soit patient. Dans mon cas, des fois, quand je regarde la vie, même après le salut, des fois, on tombe, on est faible, on a toutes sortes de misères. Et Dieu nous aime. Il nous aime au point que, OK, encore tombé, mais il t'aime pareil. C'est merveilleux. Dieu est patient. est très, très, très patient envers chacun d'entre nous. Alors ça, c'est dans, même à l'époque du déluge où Dieu a décidé de détruire la terre et tous les habitants. On estime, si je me souviens bien, là, que, quand on regarde les commentaires, on estime à 2 millions de personnes qu'il pouvait y avoir sur la terre à cette époque-là. C'était quand même beaucoup de monde. Il en a gardé 8. Il a balayé le reste. C'est là qu'on voit un côté de Dieu qui est sévère, le Seigneur. On le sait, le Seigneur nous l'apprend dans les Saintes Écritures, il ne laisse jamais le péché impuni. Alors là, à l'époque de Noé, le péché avait vraiment atteint son comble. Le péché s'était multiplié sous toutes ses formes et de façon proportionnelle au nombre des pécheurs. La semaine passée, on avait parlé de ça. Plus le nombre de pécheurs augmente, plus il y a des péchés qui se produisent. Si vous allez rajouter 10 membres à l'Église, il va y avoir plus de péchés qu'il y en a actuellement. Plus il y a de monde, plus il y a de péchés. Alors, quand on est rendu à 2 millions, ça n'allait pas bien. Tout le monde avait mis Dieu de côté. Alors, tout ce que le Seigneur avait donné comme bénédiction à l'humanité commençait déjà à être corrompu. Quelle corruption était à quel niveau? Il y avait donné le mariage, il avait donné aux hommes les relations sexuelles, les relations interpersonnelles, il avait donné le commerce, les devoirs qu'on a envers Dieu. Donc, tout avait été corrompu dans le sens que le devoir que les êtres humains avaient d'adorer Dieu avait été transformé en superstition et en idolâtrie. On sait que les hommes, quand dans Romains ils nous le disent, les hommes ont changé, ont pris ce qui était créé, la créature, et ont adoré la créature au lieu du Créateur. Une méchante erreur. Et il y avait aussi les devoirs que les hommes ont envers les autres, qui ont été donnés par le Seigneur un petit peu plus tard dans Exode, quand il a donné les 10 commandements. Les 6 derniers commandements, c'est les devoirs que nous avons les uns envers les autres. Et là, ça s'était transformé en violence sous toutes ses formes. L'injustice, la fraude, la rapine, l'oppression. Et vous trouvez-vous que quand on décrit ces choses-là, que ça ressemble un petit peu à nos jours? Ça y ressemble drôlement. Alors, le péché se pratiquait ouvertement. Tous les hommes pratiquaient des abominations devant Dieu. Et les péchés, sous toutes leurs formes, souillaient tout leur être, leurs actions, leurs pensées, leurs buts, leurs désirs, leurs motivations, leurs ambitions. Et ça, de façon constante et permanente. Alors, on sait que le Seigneur est patient, mais il arrive un moment donné où la mesure est comble. Et là, c'est un peu comme quand le juge donne son coup de marteau. C'est réglé. Après ça, le Seigneur ne revient plus sur ses paroles. Alors, l'apostasie était vraiment entière, généralisée, irrémédiable et irréversible. C'est, on ne pouvait plus retourner. Il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Alors, le blasphème des hommes s'exprimait en parole et en action de façon audacieuse et hautement provocatrice envers Dieu lui-même. Quand les hommes sont rendus, qui sont capables de blasphémer, puis qui n'ont plus aucune crainte de Dieu, là, on est rendu à un niveau de mal sur la terre qui est vraiment dangereux. Alors, on le sait, le texte nous le dit, le terrible jugement du Seigneur était sur le point de tomber. Alors, on va regarder les versets 11 à 13, la destruction exposée. Ça nous dit, « Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence, et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. C'est sévère, là. On parle de détruire des millions d'hommes. Alors ici, c'était clair que Dieu était, on le sait, Dieu est omniscient, omnipotent. Peu importe la région ou l'endroit où les êtres humains vivaient, il voyait absolument tout sur eux, comme il continue de le voir encore. Il lit dans nos pensées, il regarde toutes nos actions sans aucune omission, et il voyait l'ensemble de la situation, et les hommes étaient corrompus au point où Dieu a décidé de tout détruire cela. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On sait que Dieu est le péché. Ici, dans mon texte, j'avais marqué « est profondément le péché ». Je pense que je le corrige. Il est infiniment le péché. C'est pas pareil. Profondément, des fois, quelqu'un qui se sanctifie, même un saint entre nous, des fois, le péché peut nous affecter, mais pas comme Dieu. Dieu est infiniment le péché. Alors, nous, des fois, on peut l'haïr, mais on dirait qu'on garde toujours une petite sympathie envers le péché à cause du fait qu'on est des pécheurs. Alors, ici, on voit un principe qui nous est donné dans Nahum, le livre de Nahum, le chapitre 1 au verset 3. L'Éternel est lent à la colère et grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est important de se souvenir, même pour nous aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours. Nos péchés, si Dieu nous donnait la punition que ça méritait, un seul de ces péchés-là, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos omissions ou dans des fautes secrètes, nous mériterait d'être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Ça nous donne-tu une idée de la sainteté de Dieu? Dieu est saint au point où un seul des plus petits de nos péchés nous mériterait l'enfer pour l'éternité. Et quand il dit « il ne tient pas le coupable pour innocent », il n'y a aucune faute que les êtres humains ont pu faire ou feront sur la terre qui ne sera pas jugé et payé. Il y a deux choses possibles, on le sait. Nous, on est des chrétiens. Quand on est des chrétiens, la punition qui était due à nos péchés, Christ le subit à notre place. C'est-tu merveilleux, ça? L'Évangile, c'est tellement glorieux. La punition qui aurait dû être la nôtre, Christ a accepté de la subir à notre place. Et en plus d'accomplir ce que Dieu exigeait de chacun d'entre nous, la parfaite obéissance à la loi, toute notre vie, tous les moments, sans avoir jamais manqué. C'est plus on se rend compte de ça dans notre vie chrétienne, plus on étudie les Écritures, plus c'est quelque chose qui nous émerveille littéralement. Alors quand il nous dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, nous, c'est drôle, on est des chrétiens, puis on le sait qu'on pêche encore. On est-tu d'accord là-dessus? On continue de pécher tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans des omissions, dans des fautes secrètes. Et juste à penser que si on fait l'examen de notre conscience, de tout ce qu'on fait dans une journée, juste une journée, là, pour ne pas prendre toute notre vie, parce que là, c'est trop gros, juste une journée, ça nous mériterait d'aller en enfer. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est d'aller devant Dieu. Le Seigneur, je péché. Je te demande pardon. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a payé pour. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il y a quelqu'un qui a payé pour la faute que j'ai faite. La faute que vous avez faite. Puis il a payé cher. Bien plus que tout ce qu'on est capable d'imaginer. Ça, ça se rappelait souvent. Alors, pourquoi Dieu décide de tout balayer l'être humain? C'est simple, le texte le dit. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Les seuls à qui Dieu avait fait grâce, c'est Noé, sa femme, ses trois fils et leurs épouses. Ça dit bien, et Noé trouva grâce, une grâce. Alors, c'est les seuls que Dieu a dit, la promesse que j'ai faite que le Messie va venir, il va continuer à se faire par l'intermédiaire de ces gens-là à qui je vais épargner la vie, par un moyen extraordinaire de l'arche de Noé. Alors, les Écritures nous enseignent que Dieu n'intervient que lorsque le mal est à son comble. Ça, c'est un autre principe. On voit de façon régulière dans les Écritures que Dieu tolère le mal sur la terre, mais jusqu'à un certain point. Voyez-vous, si on prend Genèse 15, un petit peu plus loin, mais le principe est quand même donné dans Genèse 15, et versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, là on est rendu plus loin dans l'histoire, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants » et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères et tu seras enlevé, enseveli dans une heureuse vieillesse. Et gardez bien le verset 16. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Le Seigneur juge, il laisse le péché se développer jusqu'à un certain point, et à un moment donné, quand ça atteint un certain niveau, la masse tombe. Et là, c'est le jugement qui arrive. Et souvent, quand on regarde les Écritures, les jugements du Seigneur sont très sévères. Ils peuvent être sévères même dans notre propre vie. Si on est des chrétiens, puis qu'on pêche allègrement, comme on dit, et le Seigneur va venir nous chercher. Tu sais, il y a un verset dans les Écritures, « Sache que ton péché t'atteindra. » Quand on fait un péché, qu'il soit public, qu'il soit privé, il faut faire attention de ne pas abuser de la bonté du Seigneur. Il faut confesser nos péchés, mais il ne faut pas non plus abuser. Alors, chose intéressante aussi, un autre principe qu'on a besoin de voir dans les Écritures, c'est celui que le Seigneur ne fait jamais de grandes choses sans avertir ses prophètes. Voyez-vous, dans Amos, chapitre 3, verset 7, ça dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Voyez-vous, il dit à Noé, il dit à sa famille, il dit à quelqu'un que ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, c'est 100 ans après, là. Plus de 100 ans après, là. On va voir tantôt que pour bâtir l'arche, ça a pris 100 années. 100 années, il était à quoi? Il n'était pas beaucoup, là. Il y avait Noé, ses trois fils, ça fait 4 hommes. Vous essayerez de bâtir une affaire de ce grandeur-là. Je veux juste vous aviser que je vais vous donner un document après le culte, où on va avoir toutes sortes de réponses à toutes sortes de questions concernant la grandeur de l'arche, concernant est-ce que c'était possible qu'il y ait tant d'animaux que ça là-dedans, est-ce que c'était possible qu'à 4 hommes on puisse bâtir un arche de cette grandeur-là, de cette ampleur-là. Et plutôt que j'avais deux choix, où je vous donne tous les faits dans le sermon, où je vous dis qu'on va vous donner le texte après. Moi, pourquoi je vous donne le texte après, c'est parce que ça reste. Ça reste, puis si jamais plus tard, vous voulez répondre à quelqu'un, « Oh, ben là, ça, je peux pas, les animaux, ça, je peux pas. » Vous allez avoir des réponses écrites, des réponses qui ont été réfléchies par des hommes, des scientifiques, qui ont pu examiner la situation et répondre à la question, est-ce que ça se peut, est-ce que littéralement ça se peut ce que ça dit dans le texte? On va voir que oui, pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est des chapitres qui ont été hautement disputés, la question de l'arche de Noé, la question de l'arche, la question de toutes ces choses-là, ça a été hautement disputé entre les incroyants et les croyants. Mais le problème, c'est que nous, des fois, on est trop portés à croire les incroyants, au supposé nom de la science. Mais sachez que toutes ces choses-là ont été examinées par des chrétiens très savants dans tous les domaines, physique, chimie, biologie, géologie, mathématiques. Et il y a des réponses à ces choses-là. Si on est ignorant, ce n'est pas parce que les réponses n'existent pas. Les réponses existent, et c'est pour ça que je vous donne ce document-là, parce qu'il y a des réponses. Et je vous ai donné 4 ou 5 sites web où il y a des choses extraordinaires qui ont été publiées. Il y en a sur YouTube, il y en a ailleurs. Je vous donne tout ça. Alors, vous prendrez le temps, si vous en avez le goût, d'aller voir ces choses-là. C'est très instructif. OK, maintenant, on va regarder la destruction du chapitre, deuxième point, 14 à 21. Alors, il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Toute la terre va être détruite. Disons, on va garder le chiffre de 2 millions. On ne peut pas avoir de certitude que c'est ça, mais d'après les estimations. Le Seigneur détruit 2 millions d'êtres humains par le déluge. Les écluses des cieux s'ouvrent, et ça se trouve par les deux côtés. Et la terre entière se remplit d'eau 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Et là, ceux qui ne croyaient pas, parce que ça dit que Noé, durant tout le temps qu'il a construit son arche, il était un prédicateur. Il a prêché. aux gens qu'est-ce qui s'en venait. Il a averti cette génération-là que Dieu s'apprêtait à faire cela. Pour Dieu, 100 ans, c'est rien, là. Il nous a laissé le temps de construire l'arche dans laquelle il dit, vous allez lire là-dedans, vous allez amener les animaux là-dedans. Et moi, je vais faire pleuvoir sur la terre et ça va tout se détruire. Alors, c'est vraiment un prodige que Dieu... Alors, quand il dit dans les versets 14 à 16, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » On pense que ça peut être du cèdre, mais ça, on ne peut pas prouver ça. « Et tu feras l'arche par loge, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera 300 coudées. » Une coudée, c'est à peu près 18 pouces. Fait que si on prend la longueur de 18 pouces... ça veut dire 300 coudées, ça veut dire 450 pieds de long. Comment ça mesure ici? 30
pieds.
30 pieds? Bon, ben, c'est 15 fois. Ça commence à faire... Et après ça, il dit sa largeur, 50 coudées. Donc, la largeur de l'arche, 50 fois, 75 pieds. Et... sa hauteur, 30 coudées. Donc, la hauteur de l'arche, 30 coudées, donc 45 pieds. Mm-hmm. 450 par 115 par 45. Mm-hmm. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras à une coudée par en haut. Tu mettras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Mm-hmm. Trois étages. L'arche de Noé avait trois étages. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge, tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Là, c'est pour ça que je vous dis, je pourrais aller dans le texte, les textes que j'ai trouvés sur Internet qui sont très intéressants. Et plutôt que de faire ça, on va passer, et à la fin, s'il me reste du temps, on va y aller. Puis si je n'ai pas de temps, ben, je vais vous donner le texte, vous allez pouvoir le lire chez vous tranquillement, et ça devrait aller. On le sait, les chapitres 6... et les chapitres 7 du livre de la Genèse ont de tout temps provoqué des moqueries de la part des incroyants. Il y a des difficultés dans la compréhension du texte. Et ça l'a amené, bien entendu, au cours des siècles, d'interminables discussions entre les croyants et les incroyants. Les croyants ont une position assez simple. Ce que Dieu dit, on le croit sur parole. Tandis que les inconvertis, ils partent avec une autre affaire. Eux autres, ils ne croient pas ce que Dieu dit. Ça fait quelque part, ils cherchent à dire, ben ça se peut pas, c'est un mythe, c'est une histoire qui ne tient pas debout, c'est une histoire de Père Noël. Et là, ils commencent à vouloir se moquer des gens qui croient au texte. Moi, personnellement, il y a eu un temps où... La théorie de l'évolution, ça me titillait un peu. Mais ça ne me titille plus du tout. Du tout, quand je vous dis, là, du tout, là. Pour moi, aujourd'hui, la parole de Dieu va passer par-dessus n'importe quel pseudo-science. Je mets bien le mot pseudo parce que ça se veut de la science, mais ce n'est pas toujours de la science. La preuve de ça, c'est que les sites web que je vous ai donnés, allez-y dessus, vous allez voir que ceux qui répondent à tous les arguments des évolutionnistes, les chrétiens scientifiques, là, moi, je ne me sentirais pas d'attaque à m'ostiner avec les incroyants, avec toute leur science. Mais il y en a des géologues chrétiens. Il y en a des savants chrétiens de toutes les catégories. Et eux, ils ont répondu à toutes leurs questions. Alors, si ça n'est quelque chose qui vous fascine, bien, allez-y sur les sites, puis lisez-les, les réponses que les chrétiens ont amenées à leurs arguments. Sinon, vous allez toujours avoir le petit penchant... Je l'ai vu souvent dans des églises, là. Un petit penchant. Ouais, mais on enseigne ça dans les écoles. Puis, m'en fous, comment ils enseignent ça dans les écoles? Ils peuvent enseigner n'importe quoi dans les écoles. Ça ne fait pas de l'enseignement des écoles une vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand on est chrétien, si on donne à la parole de Dieu la place qu'elle doit être, ça change tout dans nos vies. Plus particulièrement, pourquoi on étudie la Genèse? Parce que la Genèse, si on comprend pas la Genèse, et si on ne l'apprend pas mot... Comme étant la parole de Dieu dès le premier livre des Écritures, dites-vous une chose, vous allez avoir du trouble durant toute la Bible. Parce que c'est la base d'un solage. Si vous avez un bon solage, puis vous croyez la bonne chose au moment que vous faites la Genèse, c'est sûr que vous allez avoir moins de difficultés que vous allez arriver plus tard. Et on voit dans le verset 17 et 18, il dit, « Et moi, » le Seigneur, il parle de lui, il dit, « Moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessous les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Si Dieu avait averti qu'il y aurait, si on se fie sur Genèse 6 au verset 3, on croit qu'il y aurait eu 120 ans quand il parlait que la durée de l'homme, de la vie de l'homme serait de 120 ans. Certains interprètent ça de cette façon-là. Alors, l'Arche de Noé, souvent, vous avez sûrement déjà entendu un sermon où on compare l'Arche de Noé au salut en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans l'Arche, alors on compare, on dit l'Arche chez Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ vont être sauvés de la destruction. Alors, souvent, on fait des similarités de cette façon-là. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a un auteur qui a trouvé 10 similarités entre l'Arche de Noé et le salut en Jésus-Christ. Et quand on fait les similarités, on trouve ça très intéressant. Premièrement, la similarité. L'Arche de Noé, c'est une œuvre non conçue par un esprit humain. C'est pas Noé qui est arrivé et dit « Ouais, là, la terre va augmenter, ça va augmenter. Quelle sorte de bateau que je me ferais bien, quelle longueur, quelle largeur, quelle hauteur, comment ça va marcher? » C'est une œuvre divine. On compare ça avec le salut en Jésus-Christ. Est-ce que c'est une œuvre de conception divine également? Alors, il y a une belle similarité. La deuxième, une œuvre trouvant sa source en Dieu lui-même et étant l'accomplissement d'un plan divin. Dieu avait l'intention de détruire l'humanité à cette époque-là à cause de sa méchanceté. Et la source de comment régler le problème venait de Dieu lui-même. La troisième, c'est une œuvre accomplie par une méthode improbable. Est-ce qu'on peut croire que c'était une méthode probable qu'à cause du péché, le Fils de Dieu, la troisième personne de la Trinité, une des personnes de la Trinité, vienne s'incarner dans une chair d'homme, qu'il soit crucifié pour régler le problème du péché de l'humanité? C'était improbable. C'était comme lui, improbable de penser que la terre finirait par avoir suffisamment d'eau sur toute sa surface pour dépasser de 15 pieds ou 15 mètres, je ne me souviens plus, au-dessus des montagnes les plus hautes. C'était comme improbable. Quatrièmement, une œuvre dont la bonté n'est perceptible que spirituellement. Quand on regarde les dimensions de ça, vous allez voir, tantôt, si je n'ai pas le temps de le faire maintenant, vous le ferez en lisant le document. Selon les personnes qui sont des spécialistes dans les bateaux, c'était le bateau avec les dimensions les plus intelligentes compte tenu du fait que la mer était comme en furie. À quelque part, il fallait que ce soit Dieu qui ait donné ces dimensions-là avec toutes les... Donc, la beauté de l'extérieur, si vous regardez certains documents qui ont été faits pour montrer que ce que ça pouvait avoir l'air, extérieurement, c'était pas rien pour impressionner. C'était pas vraiment beau, mais c'était efficace. Comme ceux qui regardent le salut de l'extérieur, on leur dit, ils ne comprennent pas, ce n'est que spirituellement qu'on peut saisir la beauté de cela. Cinquièmement, une œuvre réalisée est capable d'accomplir ses desseins. Autrement dit, Dieu ne s'est pas trompé. Il a dit, fais-toi un bateau comme ça, puis tu vas passer à travers. Il faut se souvenir que ça a duré 351 jours, 361 jours, je me souviens bien, plus qu'un an. À voguer là-dessus. Après ça, on peut dire qu'il y a une autre similarité dans le sens que c'est une œuvre hautement ridiculisée, méprisée, critiquée par les hommes incroyants et rebelles. Si vous prenez l'épisode de l'Arche de Noé, c'est méprisé par les êtres humains et les incroyants aujourd'hui. Puis si vous parlez du salut à quelqu'un qui est incroyant aujourd'hui, il va faire la même chose. Il va mépriser, même si tu l'avertis, ça s'en vient, le jugement. Il va y avoir un jugement. Cette fois-là, ça ne sera pas par l'eau, ça va être par le feu. Il va rire de toi. Es-tu malade, toi, là? Tes histoires de Père Noël, tu sais, c'est comme... Pourtant, ça va arriver un jour. Quand ça va arriver, là, il va... il va changer d'idée un peu. Aussi, c'est une œuvre avec une porte unique. On sait que quand que Dieu a fermé la porte, il va y avoir une porte. Jésus dit « Je suis la porte ». Oui, c'est vraiment des similitudes que vous pouvez faire entre le salut en Jésus-Christ et l'Arche de Noé. Et c'était aussi une œuvre d'une parfaite efficacité. Et c'était aussi une œuvre qui a été négligée par la multitude. Parce que j'imagine que Noé a dû prêcher pendant 120 ans ou disons 100 ans. Ils l'ont entendu, le message. Mais pour eux autres, c'était, on faisait les gorges chaudes. « Es-tu malade, là? » Puis ça prenait du courage. Quand vous regardez dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 19 à 20, dit « Par lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient autrefois, qui avaient été autrefois incrédules lors du temps de Noé. » La patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice. Il a prêché dans son temps. Lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Fait intéressant, parce que le Seigneur se sert de cette histoire-là pour comparer qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps, et je crois qu'on est dedans. Quand le Seigneur dit dans Luc 17, versets 26 et 27, « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fait périr. » Alors, aujourd'hui, on fait la même chose, on annonce le salut en Jésus-Christ, on dit que le jugement s'en vient, on dit que ça va être par le feu. Les gens ne croient pas encore. C'est pas, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme on dit. Et dans le verset 19 à 21, il y a une chose intéressante, ça dit, « Et tout ce qu'il vit entra, tout ce qui vit en, d'entre toute chair, tu en feras deux, tu en feras entrer deux de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles, des oiseaux selon leur espèce, des bêtes selon leur espèce, et de tout reptile du sol selon ses espèces. Deux de chaque espèce. » Remarquez les mots qui sont utilisés, parce que souvent, on va dire, Noé, y étais-tu pour aller chercher chaque animal un par un, puis les emmener? Comment il a fait pour faire ça? Lisez le texte attentivement. Le texte nous dit, deux de chaque espèce viendront vers toi. C'est Dieu qui a permis que les animaux, par eux-mêmes, viennent et entrent dans l'arche. Mais c'est parce qu'on lit les Écritures rapidement, des fois. Puis là, on se pose toutes sortes de questions, puis on se fait toutes sortes de problèmes, alors qu'il n'y a pas de problème, parce que le texte nous le dit, c'est quoi, comment ça s'est fait. Dieu a permis, que les a mis à l'esprit de ces animaux-là, qu'ils viennent par eux-mêmes entrer dans l'arche. Ils viendront vers toi pour que tu les conserves en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, fais-en provision par-devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Donc, Dieu prévoit et pourvoit à tout pour les siens et pour les créatures qu'il a décidé de conserver. Cette providence s'exprime de la façon suivante. Trois choses. Première, Dieu ne permet pas la destruction des méchants mettre une fin à l'ordre de l'univers et de sa création. Il veut que le règne animal soit conservé. Il n'y aurait plus. Il veut que le règne animal soit conservé. Deuxièmement, le Seigneur veut que l'ordre existant chez les animaux soit restauré par les méthodes ordinaires et naturelles après le déluge. Autrement dit, il fallait que les animaux faisaient partie de sa création, qu'ils ne soient pas tous détruits, et que l'être humain puisse continuer à exister dans le temps, à cause des 8 qu'il avait conservés, pour que de cette lignée-là, la promesse qu'il avait faite dans Genèse 3:15 puisse éventuellement s'accomplir. Et la troisième observation, c'est celle qu'on a faite tantôt. Dieu dirige les animaux à se rendre vers Noé pour entrer dans l'arche. Il dit, ils viendront vers lui. C'est-tu beau? Quand on s'arrête, des fois, à lire les Écritures avec attention. Parce que beaucoup de problèmes que les hommes se font. Parce que souvent, quand vous allez lire des incroyants sur ça, ils vont dire, ben voyons donc, c'est possible que Noé aille chercher une girafe. C'est possible qu'il aille chercher telle affaire. Le texte nous donne la réponse. Puis c'est divin, c'est Dieu. Moi, il n'y a plus de problème avec ça. Tu as juste à lire, les animaux viendront vers toi. Tu n'as même pas besoin de courir après. Ah, ben là, il faut que j'aille me chercher une chèvre. Ah, ben là, il faut que j'aille me chercher. Rien du tout, si les animaux venaient par eux-mêmes. Et la troisième idée, la destruction estimée. Ça, ici, on a vraiment une leçon de foi, parce que ça nous dit. Et Noé le fit. C'est ce que Dieu lui demandait. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Ici, on voit un principe très important, c'est que la foi n'est jamais indépendante de l'obéissance. Si Noé aurait dit, ben voyons, on ne s'en souvient pas de cette histoire-là. Hey, s'attaquer à quatre hommes à faire une œuvre de cette ampleur-là, vous allez voir dans le document que c'est quelque chose. Ça prenait, je pense, 1340 arbres. Et les seuls outils qu'il y avait dans ce temps-là, c'était des scies et des marteaux. C'était pas des chainsaws comme aujourd'hui. Mais le document va vous montrer que même avec les outils de l'époque à quatre hommes, c'est possible de construire une telle chose. Et vous allez voir, dans le texte, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet Encounter aux États-Unis. Je ne me souviens plus dans quelle ville, dans quel état. Là, j'ai ça dans le document, vous allez pouvoir ça. Vous allez pouvoir aller voir. Ça a été ouvert le 7 juillet cette année. Ils ont reconstruit l'arche de Noé avec les dimensions exactes de la Bible. Avec les animaux, ils ont mis pas des vrais animaux, mais des animaux dedans. Et ça existe actuellement, les gens peuvent visiter ça. Ça a fait toute une histoire aux États-Unis, là, parce qu'il y en a qui ont contesté ça, disant qu'ils avaient utilisé l'argent du gouvernement. En tout cas, c'est une histoire. Mais c'est intéressant quand même qu'aujourd'hui, on commence à se réintéresser à toutes ces choses-là et à voir que c'était très, 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 très possible. Alors que ça a longtemps été considéré comme, bon, c'est un mythe, c'est des histoires de grand-mère. Mais là... Alors ici, on voit que Noé, ça dit, et Noé le fit. Fit quoi? Ce que Dieu lui avait commandé. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Il a dit, il faut que ça aille 300 coudées, 30 coudées. Il fallait que ça soit les dimensions divines. À quatre hommes, c'était épouvantablement gros, ça, comme affaire à s'embarquer là-dedans. Non seulement Noé s'attaque à la tâche immédiatement, mais il dut réaliser l'immensité presque inconcevable du labeur qui était impliqué là-dedans. Tu te fais dire ça par Dieu, qu'il faut que tu construises quelque chose qui est assez gros, que ça va te prendre 100 ans à le construire. Ta foi est mise à l'épreuve. 100 ans pour construire un monument semblable. Alors, ça dit dans Hébreux chapitre 11, verset 7, « Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde, il devint héritier de la justice qui est selon la foi. » 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. « Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il envoya le déluge sur le monde des impies. » Il faut faire le parallèle avec aujourd'hui. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qui se passait dans le temps de Noé? Ça va se passer vers le temps de la fin. Vous allez avoir beau avertir les gens, ils ne vous croiront pas, et il va arriver exactement la même chose, mais excepté qu'au lieu d'être par l'eau, ce fois-là, ça va être par le feu. Alors, trois applications qu'on fait du texte aujourd'hui. Prenons au sérieux les avertissements divins concernant la destinée éternelle des hommes en obéissant aux commandements donnée par Jésus-Christ lui-même sur nos devoirs de sentinelle. Matthieu 28, c'est-à-dire versets 19 et 20. Il nous dit à nous, tout le monde ici, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On les connaît, ces versets-là, on les a entendus des centaines de fois. On les a-tu vraiment entendus juste avec nos oreilles? Ou si on les a vraiment entendus dans l'obéissance? C'est là la question. Romains 10, versets 13 et 14, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? » On a le devoir d'annoncer ces choses-là autour de nous. C'est un devoir. Comme Noé obéit, nous aussi, on se doit d'obéir. Deuxième application, pointons les pécheurs vers la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre de salut. N'hésitons pas à affirmer l'absolue exclusivité du salut en lui. Acte 4, 12, moi je trouve tellement un beau verset. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Aujourd'hui, selon certains œcuméniques, toutes les religions mènent à Dieu. Vous avez juste à retenir Acte 4, 12, puis vous leur citez. Il n'y a de salut en aucun autre. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Si ta religion ne parle pas de Jésus-Christ, oublie ça, tu peux te faire des illusions, mais tu n'obtiendras pas le salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Nous devions être sauvés. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin. » L'article défini. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ceux qui prétendent qu'ils vont aller au Père par d'autres religions qu'en Jésus-Christ. Bien là, on a comme le choix. Ou on croit ce que Dieu dit, ou on croit ce que les hommes disent. Ce que les hommes disent, bien plus séduisant. Séduisant de dire que toutes les religions mènent au Seigneur, mènent au ciel. C'est vraiment séduisant. Mais est-ce que c'est ça que les Écritures enseignent? Ça, c'est une autre affaire. Troisièmement, je dirais, comme Noé, obéissons. Matthieu 7, 21. Moi, Matthieu 7, là, j'aime beaucoup Matthieu 7. Parce que ça dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, dire qu'on croit sans obéissance, ce n'est pas de la véritable foi. Pas plus compliqué que ça. Et Jacques 2, versets 17 à 20, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient. Croire en Dieu, là. Moi souvent, des fois, quand on fait de l'évangélisation, les gens vont, ben moi je crois en Dieu. Puis là, tu poses des questions sur ce qu'il fait. Il fait, je ne sais pas, disons qu'il fait il fait des sciences occultes. Ben, tu dis, si tu fais des sciences occultes, tu crois en Dieu, il faut t'arrêter. Hein? La Bible enseigne ça. Il dit qu'il est croyant, mais... Là, tu lui montres. Oh, ben là, là... Ça marche pas. Et verset 20, il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Tu vas pas au ciel avec ça. « Que notre grand Dieu... Glorieux et gracieux Seigneur, sois béni, loué et adoré éternellement. Amen.